Chapitre 3. Le vicomte passa la journée du lendemain au coin de son feu et ne sortit que le soir pour aller au cercle, avec l'intention de n'y pas rester longtemps et de se coucher de bonne heure, car il se sentait moulu. De plus, sa ridicule estafilade au front était encore toute fraîche et l'obligeait, pour éviter les questions ennuyeuses, à garder son chapeau, ce qui du reste ne pouvait choquer personne, car cette impolitesse est fort bien portée dans tous les clubs. C'est une importation anglaise. Il était 9 heures, le cercle était à peu près désert. Servaud n'y trouva ni M. de Pancorvo, ce qui à l'heure des spectacles n'avait rien d'extraordinaire, ni M. Loiseau, qui cependant devait être de service. Les scènes de la nuit avaient surexcité la curiosité du vicomte, et malgré tous les serments qu'il s'était faits à lui-même, il avait bien envie de monter chez le gérant et de lui raconter les étranges occupations nocturnes de son subordonné. Un valet de chambre de cercle qui passe ses nuits à adorer des armures dans une chambre tendue de noir, c'était vraiment pas trop excentrique, et l'excentricité n'est permise qu'au seul gentleman. Mais Servaud réfléchit qu'il serait tout à fait intolérant et inélégant de paraître s'occuper des faits et gestes d'un domestique. Il était d'ailleurs promis de ne plus penser à toute cette sotte histoire, et, toute réflexion faite, il s'en remit à la Providence du soin de punir le vice et de récompenser la vertu, et il alla se coucher. Le lendemain, vers 9 heures, il dormait de ce sommeil du matin qui est bien le plus charmant de tous les sommeils, n'en déplaise à ceux qui aiment avoir levé l'aurore, et il rêvait à demi. Dans cet état mixte, on se rend très mal compte des bruits. Le timbre de son appartement, qui tintait vigoureusement, lui fit l'effet d'une musique lointaine, et il se retourna le nez au mur. Mais le son argentin se renouvela et finit par devenir si accentué que le vicomte se réveilla tout à fait. Après avoir suffisamment maugréé contre son domestique qui s'avisait de s'absenter à pareille heure, il se leva et se décida à aller voir ce qui pouvait motiver ce cario matinal. Servaud ouvrit sa porte de fer de fort mauvaise humeur et se trouva en face d'un monsieur qu'il ne connaissait pas du tout. Était-ce un monsieur? Pas précisément, quoiqu'il fût convenablement vêtu. La figure n'avait rien de particulier. La cambrure de la taille et l'effacement des épaules révélaient un ancien militaire. Mais en somme, cela pouvait tout aussi bien être un courtier d'assurance ou un clerc d'huissier. Le personnage ôta fort poliment son chapeau, s'assura que c'était bien au vicomte Henri de Servon qu'il avait l'honneur de parler, et dit d'un ton doux et insinuant: « Monsieur Charles de Presset, fais prier Monsieur Henri de Servon de vouloir bien passer chez lui ce matin le plus tôt possible. » « Bon, très bien, » répondit sèchement le vicomte, « j'y serai dans 1 heure. » Ici, le quidam fit un mouvement pour entrer comme s'il se proposait d'attendre Servon dans l'intérieur de son appartement. Mais comme celui-ci poussa la porte, il n'insista pas, salua de rechef et partit. Fort peu réjoui de la perspective de sortir si matin, le vicomte se demanda, tout en s'habillant, ce que pouvait bien lui vouloir ce diable de Presset à 1 heure où d'ordinaire il dormait à point fermé. Servon finit par se dire que son ami, ayant ramassé une querelle quelque part, voulait lui demander de l'assister, et il pensa que, parmi tous les inconvénients d'un duel, un des plus désagréables consiste à forcer les gens de quitter leur lit à des heures indues. Cependant, il acheva sa toilette et s'achemina vers le domicile de son ami. À quelques pas de chez lui, dans cette allée des veuves où il avait été naguère si bien étranglé, le vicomte s'aperçut qu'il allait pleuvoir. Et comme Presset demeurait assez loin, il voulut prendre une voiture. Il avait déjà appelé le cocher quand il s'entendit nommer à voix basse. En se retournant, Servon se retrouva en face de l'individu qui avait sonné si fort chez lui. L'homme salua de plus en plus poliment et dit, de l'air le plus engageant, « Pardon, monsieur le vicomte, je voudrais vous éviter une course inutile. Ce n'est pas chez lui que monsieur de Presset vous attend, c'est chez monsieur le commissaire de police, qui demeure ici, tout près. » À ce discours inattendu, la stupéfaction du pauvre Servon fut prodigieuse et son étonnement se compliqua bientôt d'une mauvaise humeur très prononcée. Il se sentait une forte envie d'envoyer rouler dans le ruisseau ce monsieur si complaisant qui tenait à lui éviter une course inutile. Mais il réfléchit que ce serait ridicule et il réussit à reprendre son sang-froid. « Mais quelle est cette sorte de plaisanterie ?» demanda-t-il en le prenant très haut. « Oh, ce n'en est pas une, monsieur le vicomte. Je vous assure, reprit l'inconnu, et votre présence chez monsieur le commissaire est indispensable. » Bar le fait, Presset pouvait s'être attiré quelque méchante affaire et avait besoin de se faire reconnaître. Le vicomte s'adoucit donc pour dire « Bon, très bien, je vous suis, conduisez-moi. » L'inconnu s'inclina très bas et se mit à marcher, non pas devant Servon, mais à sa gauche, sans pourtant se permettre de se rapprocher trop. Le trajet ne fut pas long et après quelques minutes de marche, Servon grimpait un escalier étroit et à l'entresol, le mot « bureau » écrit en grosses lettres sur une porte jaune lui apprit qu'il était arrivé. Cette fois, son conducteur avait eu soin de marcher derrière lui. Le vicomte ouvrit et entra. Il fut frappé tout d'abord de l'aspect triste de ce lieu. C'était bien un bureau, puisqu'il y avait des tables, des écritoires et même trois commis qui griffonnaient dans un coin. Mais cela sentait la prison, le mont-de-piété ou l'hôpital. Servon s'adressa à un des employés pour demander ce qu'on lui voulait. Le commis lui répondit, après l'avoir toisé d'une façon qui le choqua très fort, « Asseyez-vous et attendez. » Ce ton donna à réfléchir au vicomte. Il ne lui était pas encore venu à l'idée qu'il pût être personnellement en cause dans cette excursion imprévue chez un fonctionnaire qu'on ne va pas d'ordinaire visiter pour son plaisir. Mais il commença à remarquer que son guide avait pris place sur un banc à côté d'un sergent de ville et que cet homme si poli avait bien la mine d'un agent secret. Du reste, Servon n'eut pas le temps de réfléchir longtemps car une porte s'ouvrit et il vit paraître un personnage dont il devina sans peine la qualité. Monsieur le commissaire, car c'était lui, le salua, le pria de vouloir bien entrer dans son cabinet, et là, après s'être assis devant un bureau en acajou d'un style tout à fait officiel, il indiqua du geste un fauteuil. Un silence embarrassant succéda à ce début presque solennel. Le magistrat feuilletait un dossier et prenait des notes. Le vicomte, surpris au dernier point, attendait une question. Tout à coup, ses yeux tombèrent sur un journal déplié dont la première page s'étalait devant lui sur l'angle du bureau. C'était la Gazette des tribunaux. En tête de la première colonne, ce titre se détachait en caractères saillants. « Le crime de Montmartre ». Vaguement intéressé par ce titre à effet, le vicomte commença à lire un article qui débutait ainsi. Pendant que la tempête de la nuit dernière se déchaînait sur Paris, un drame terrible et mystérieux se déroulait à Montmartre. Au point le plus élevé de la butte et tout près de l'église paroissiale, une maison depuis longtemps inhabitée vient d'être le théâtre d'un crime dont on ne connaît encore ni la cause ni les détails. À ce passage, Servon, qui lisait machinalement et plutôt pour se donner une contenance, tressaillit, puis soudain, par un mouvement dont il ne fut pas maître, il attira à lui le journal et poursuivit avidement. « Depuis 6 mois environ, continua le rédacteur, cette maison avait pour unique habitant un homme dont les allures étaient les plus singulières. Il ne recevait jamais personne, rentrait fort tard et sortait avant le jour. Ce matin, une voisine, étonnée de voir ouverte la porte de la terrasse que le locataire tenait toujours soigneusement fermée, eut la curiosité d'y entrer et aperçut dans le vestibule des traînées de sang qui se prolongeaient jusque dans le jardin. Très effrayée, elle alla prévenir le commissaire de police, qui se transporta immédiatement sur les lieux et constata qu'un crime horrible venait d'être commis. Quand le commissaire vit Henri de Servon absorbé par la lecture de ce journal, qui évidemment avait été placé là à dessein, il cessa d'écrire et regarda le jeune homme, en cherchant à lire sur sa physionomie les impressions qu'il éprouvait. Le vicomte, ne se doutant pas qu'on l'observait, continua sa lecture. Dans une chambre située au second étage, un cadavre gisait au milieu d'une mare de sang. C'était celui d'un homme vêtu avec élégance, encore jeune et très robuste. Il paraissait n'avoir succombé qu'après une lutte acharnée, car il était criblé de blessures. Un dernier coup qui avait atteint le cœur avait dû déterminer la mort. On n'a pas pu, dans un premier examen, déterminer qu'elle avait été l'instrument du meurtre. Des armes de diverses natures étaient jetées çà et là sur le parquet. D'autres étaient encore accrochées au mur de cette chambre dont l'aspect était des plus étranges. Entièrement tendue de noir, elle présentait l'aspect d'une chapelle mortuaire et, ce qui pourrait faire croire qu'elle était habitée par un fou, c'est qu'on y a trouvé un squelette revêtu d'un casque de cuivre et d'une armure en buffle comme on en portait sous Louis XIII. Quant au locataire mystérieux, il a disparu et tout indique qu'il doit être l'assassin, quoique certaines circonstances portent à penser qu'il a dû avoir un ou plusieurs complices. Des traces de sang remarquées sur la terrasse prouvent que la victime, en se défendant, a blessé ses meurtriers, et cette circonstance aidera sans doute à les découvrir. Des groupes nombreux n'ont cessé de stationner autour de la maison pendant toute la journée. Post-scriptum, nous apprenons, au moment de mettre sous presse, que la victime vient d'être reconnue. C'est un riche étranger, M. de P., arrivé récemment à Paris. On pense qu'il a été attiré dans un guet-apens et quelques indices sembleraient rattacher ce meurtre aux attaques nocturnes devenues si fréquentes dans ces derniers temps. On dit même qu'un hasard providentiel a mis la justice sur la trace de l'un des assassins. Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette affaire qui paraît devoir prendre place parmi les plus dramatiques de notre époque. À mesure qu'il avançait dans la lecture, Servon passait de la surprise à l'émotion la plus vive, et quand il arriva à la fin de l'article, il était tellement absorbé qu'il avait oublié complètement le lieu où il se trouvait. En relevant la tête, il rencontra les yeux du commissaire qui suivait sur son visage le reflet des violentes impressions qui le bouleversaient. Le malheureux vicomte pâlit alors sous ce regard clair et interrogateur qui semblait lire dans son âme. Il tressaillit malgré lui quand le magistrat, sans cesser de l'envisager bien en face, ouvrit un tiroir du bureau. Il prit un objet et le lui tendit en disant « Ceci, monsieur, vous appartient-il ?» Le commissaire tendait au vicomte un petit carnet de cuir de Russie qui contenait des cartes de visite. Mais oui, certainement, balbutia Servon. Ce portefeuille est à moi. Je ne savais pas l'avoir perdu. Un silence glacial suivit cette phrase que le pauvre vicomte eut quelque peine à prononcer distinctement. Il sentait peser sur lui le regard pénétrant de son redoutable interlocuteur, et il éprouvait le sentiment vague d'un danger encore inconnu. Il retrouva pourtant quelque sang-froid et répondit de l'air le plus dégagé qu'il put affecter. Oh, je ne suppose pas, monsieur, que ce soit pour me restituer un objet de si mince valeur que vous venez de m'envoyer chercher par un de vos agents. Non, assurément, reprit le commissaire, sans le quitter des yeux. Il ajouta, en scandant ses phrases et en appuyant sur les mots, ce portefeuille a été trouvé hier matin à la porte d'un jardin attenant à une maison de Montmartre. Et sur la porte où l'on a ramassé, il y avait du sang. Vous voyez d'ailleurs, il en a reçu quelques gouttes. Et il indiquait du bout de son doigt sur le carnet de petites taches noirâtres. Il y a dans Les Misérables de Victor Hugo un chapitre superbe qui s'appelle Une tempête sous un crâne. À coup sûr, il se passa en cet instant dans la tête de Servon quelque chose de semblable à une tempête. Il lui semblait que toutes ses idées se confondaient, et pourtant il embrassait avec une lucidité incroyable les événements qui s'étaient succédés depuis 48 heures. Il en apercevait tout à coup les terribles conséquences, à peu près comme un homme qui, au milieu d'une promenade tranquille et discrète, verrait s'ouvrir à ses pieds un précipice inattendu. Le malheureux vicomte devint d'une pâleur livide et put à grand-peine articuler deux ou trois mots sans suite. Je ne sais pas, j'ignore où j'ai perdu ce portefeuille. Le commissaire ne cessait pas de l'examiner pendant qu'il jouait ce triste rôle, et Servon lut dans ses yeux une nuance prononcée de mépris. Il devait penser: voilà un scélérat bien lâche. La victime du crime odieux commis cette nuit à Montmartre, continua lentement le commissaire, est monsieur de Pancorvo, un de vos amis. Le Servon fit un signe, un geste de dénégation. Un homme de votre monde, du moins. Il était fort riche et on présume qu'on l'a attiré dans un guet-apens pour le voler et l'assassiner. Vous avez reconnu vous-même, comme vous, appartenant ce carnet qui a dû être perdu par un des meurtriers, ou tout au moins par un des témoins du meurtre. Le vicomte voulut répondre, mais la voix lui manqua. L'émotion l'étouffait. Il se peut, reprit le commissaire, que des circonstances encore inconnues de la justice vous aient amené dans cette maison au moment où un crime s'y commettait. Mais alors, il faut les expliquer nettement. Dans votre intérêt, je vous engage à parler sans détour et sans réticence. Cette dernière phrase avait été dite d'un ton plus doux. Elle ouvrait à Servon la voie des aveux, qui était certainement la meilleure. Et il y vit par malheur tout autre chose qu'une intention bienveillante, et il crut à un piège. Une colère sourde lui ôtait beaucoup de son bon sens habituel, et il ne fut pas maître d'un premier mouvement. Monsieur, dit-il en se levant brusquement, je n'ai rien à répondre à une accusation dont mon passé et ma situation dans le monde auraient dû me garantir. Si mon carnet de poche a assisté à un crime, moi je n'y étais pas. Je ne suis pas chargé de vous expliquer la mort d'un homme que je connais fort peu. Je vous ferai remarquer seulement que pour se livrer à l'assassinat et au vol, il faut avoir, je crois, de bien grands besoins d'argent, et que je possède une fortune indépendante. Cette justification dédaigneuse parut faire fort peu d'impression sur le commissaire, qui se contenta de dire avec une indifférence évidemment calculée: vous avez été blessé récemment, votre front porte la marque d'un coup de sabre. En effet, la coupure profonde que Servon s'était faite en tombant à la porte du jardin était à peine fermée et marquait sur sa peau comme une longue raie rouge. Cette prétendue preuve, dont il comprenait tout le danger, acheva d'exaspérer le vicomte. Et que vous importe après tout, reprit-il en gesticulant. C'est singulier, continua le commissaire, sans s'émouvoir. Vos mains aussi portent des écorchures. On y voyait, en effet, les marques très apparentes laissées par les épines du jardin. On dirait des coups d'ongles. Ah, tenez, monsieur, veuillez nous calmer. Vous asseoir et m'écouter attentivement. Servon obéit, sans trop savoir ce qu'il faisait. Et d'abord, croyez, reprit le magistrat, après s'être recueilli un instant, croyez que votre situation et vos antécédents irréprochables me sont parfaitement connus. La manière dont j'ai agi devrait vous le prouver. Depuis hier, ce portefeuille est entre mes mains. Il est rempli de cartes de visite à votre nom et, si j'avais eu affaire à un homme moins honorablement posé, je vous aurais tout simplement fait arrêter à votre cercle ou dans la rue, car un agent vous a suivi toute la soirée. J'ai voulu vous épargner un scandale public et j'ai procédé ainsi parce que je pensais que vous pourriez vous justifier. Veuillez donc, je vous le répète, au lieu de vous retrancher dans des dénégations insoutenables, me fournir de sincères, de complètes explications. Je ne refuse pas de croire à votre innocence, malgré les nouveaux indices que je viens d'apercevoir. Ses yeux allaient du front aux mains du vicomte. Vous avez pu vous trouver dans un cas de légitime défense. Peut-être même avez-vous failli périr avec monsieur de Pontcorvo. Je suis disposé à admettre toutes les justifications, mais il faut commencer par me les fournir. Ce langage, dont Servon comprenait la rigoureuse logique, le jeta dans une grande perplexité. Il ne pouvait pas se décider à mentir, et d'un autre côté, l'idée de raconter ses ridicules équipées lui était insupportable. D'ailleurs, il commençait à se demander si on croirait à cette étrange histoire, et il résolut de ne parler qu'à la dernière extrémité. Le sang-froid lui était revenu peu à peu, et ce fut avec l'intention de tâter le terrain qu'il répondit. En supposant, monsieur, que des motifs très avouables m'eussent amené dans cette maison de Montmartre, et qu'il me convînt de vous les faire connaître, pourrais-je être assuré qu'il ne serait connu que de vous seul, et l'étendue de vos attributions vous permettrait-elle de ne pas donner suite à cette affaire? Le pauvre vicomte s'aperçut bien vite de sa faute. Il venait de blesser un homme qu'il devait ménager avant tout. Je vois, monsieur, dit le magistrat avec une raideur marquée, que vous n'avez aucune idée de mes fonctions. Je vais vous les expliquer en trois mots. Je peux tout, à charge de rendre compte. Et si je persistais à me taire? Ben, dans ce cas, mon devoir m'obligerait à vous mettre à la disposition de la justice. Ce qui veut dire que je dresserai un procès-verbal de cet interrogatoire et que j'y consignerai votre refus de me répondre, après quoi ma mission serait terminée et celle de monsieur le juge d'instruction commencerait. Fort bien, monsieur. Je puis donc me retirer. À ces mots, l'étonnement le plus profond se peignit sur les traits du commissaire, qui eut cependant le bon goût de ne pas sourire, et qui se borna à répondre. Vous ne m'avez pas compris, monsieur. En l'absence de toute explication de votre part, les charges qui s'élèvent contre vous sont assez graves pour que votre arrestation soit maintenue. Et je vais être obligé de vous envoyer en prison préventive. Cette phrase tomba sur l'infortuné Servon comme une douche d'eau glacée. Cette fois, il fallait bien se décider à y voir clair. Il était arrêté, arrêté comme le dernier repris de justice, avec lequel on allait sans doute le loger. Mais ce mot effrayant, en prison, qui presque toujours terrifie les coupables, produisit sur le vicomte un effet tout opposé. Pâle, les poings fermés, les dents serrées, il se leva et dit en ricanant avec amertume « Très bien, ce sera complet. Je suis prêt à aller partout, il vous plaira de m'envoyer. » À la grande surprise, ce ton insolent n'irrita nullement le commissaire. Cerveau crut même surprendre dans ses yeux l'expression d'un doute. Peut-être pensait-il qu'un homme qui a la conscience chargée d'un assassinat ne se permet guère de pareils emportements. Mais cette idée, si tant elle qu'elle lui vint, ne l'empêcha pas d'appeler son secrétaire, de lui dicter le procès-verbal que le vicomte furieux refusa de signer et d'envoyer chercher un fiacre. Un roulement de voiture se fit entendre dans la cour. Deux agents parurent à la porte du cabinet. « Voici le mandat de dépôt, » leur dit le commissaire. « Conduisez monsieur à la force. » Une demi-heure après cette scène, Henri de Servon était écroué à la force, qui servait alors de maison d'arrêt pour les prévenus. La cellule où on l'avait enfermé était une pièce étroite, dont les murs n'offraient à l'œil qu'une surface luisante et lisse. La fenêtre, c'est-à-dire un châssis en verre dépoli, faisait face à la porte. La cellule avait 4 mètres de long sur 2 de large. À gauche, un lit, à droite, une table fixée au mur et un escabeau enchâssé dans le sol. Tout cela était propre et froid. Rien de lugubre, rien de noir, rien qui sentît le cachot. La porte seule avait bien l'aspect d'une porte de prison. Mais on comprenait vite que cette loge si simple garde bien mieux ses prisonniers que des vieilles murailles enfumées des bastilles d'autrefois. Latude aurait renoncé à s'évader devant ces parois de stuc poli où on eût distingué la marque d'un coup d'ongle. C'était net et sûr comme la loi moderne. Après avoir admiré ce produit d'une civilisation assez avancée pour raffiner jusqu'à ses prisons, le vicomte s'assit et se mit à réfléchir. Sa colère était tombée et il envisageait avec plus de sang-froid sa situation. Elle était singulièrement désagréable. Elle pouvait devenir très grave. Mais, en se voyant décidément accusé d'assassinat et de vol, Servon avait compris enfin qu'il était temps de faire l'aveu de toutes ses sottises. Un juge, se disait-il, est discret par état, et quand celui qui doit m'interroger connaîtra les motifs de ma présence dans ce maudit jardin, il me fera remettre en liberté et me gardera le secret. J'aurais été si peu de temps invisible, et j'ai été arrêté avec tant de délicatesse et d'égard que personne ne se doutera de ce petit voyage en des régions peu connues du monde où je vis. Il restait pourtant au vicomte un grave scrupule. Pour se justifier, il allait être nécessairement amené à raconter sa ridicule odyssée aux trousses d'un valet de chambre et par suite à révéler à la justice que ce valet était l'assassin de Montmartre. La conséquence de cet aveu pouvait être d'envoyer à l'échafaud un homme qui, dans la pensée du vicomte, lui avait sauvé la vie au rond-point des Champs-Élysées. Mais Servon n'avait plus le choix des moyens. D'ailleurs, il espérait bien que le sieur Loiseau avait pris ses précautions avant d'expédier dans l'autre monde son ami ou son complice Pancorvo et qu'on ne le prendrait jamais. Ces diverses réflexions le tranquillisèrent beaucoup, et pour se consoler tout à fait, il se dit qu'il serait certainement interrogé le lendemain et qu'après tout, 24 heures sont bientôt passées. » Mais Henri s'aperçut tout à coup qu'il avait faim. Il se demandait déjà à quelle espèce de brouet noir il allait être condamné, quand un guichet pratiqué dans la porte de la cellule s'ouvrit tout à point, et Cerveau vit apparaître la figure d'un commissionnaire prêt à lui apporter ce qu'il désirerait, en payant bien entendu. Un quart d'heure après, le brillant vicomte dévorait un beefsteak qui n'était pas beaucoup plus mauvais que ceux des cabarets à la mode. Le repas pêchait plutôt par les accessoires, et le gobelet de fer blanc qu'il tenait lieu de verre dégoûta Cerveau à ce point qu'il préféra boire au goulot de la bouteille. Son porte-cigare, heureusement, se trouva plein, et il fuma sans interruption jusqu'à l'heure où, à force de retourner dans sa tête les événements de la journée et les projets du lendemain, il sentit le sommeil le gagner. Le pauvre vicomte se coucha bravement à l'heure où d'habitude il s'habillait pour aller dîner. Le lit n'était pas trop dur et il était sûr que les draps étaient blancs puisqu'on les avait mis en sa présence. Il s'endormit doucement en pensant au plaisir de se retrouver chez lui le lendemain soir, et le grand jour s'était déjà fait quand il se réveilla, frais, dispo, et tout prêt à aller déjeuner au café de Paris. L'absence de tout ustensile de toilette le rappela fâcheusement à la réalité. Cerveau avait à sa disposition une cruche pleine d'eau et une écuelle en terre. Il fallut bien s'en contenter, mais ce détail de la vie de prison acheva de le décider. Pour retrouver ses cuvettes anglaises, le vicomte aurait tout avoué, tout ce qu'on aurait voulu. Un seul point le préoccupait encore. Allait-on le faire attendre beaucoup avant de l'interroger? La matinée lui sembla terriblement longue, car il était près de midi quand la porte de sa cellule s'ouvrit. Un gardien venait lui annoncer que le juge d'instruction l'attendait. Enfin! Une voiture fermée attendait dans la cour de la force. Le vicomte y monta en compagnie de deux gendarmes, et une demi-heure après, il descendait devant une des portes latérales du palais de justice. Après une ascension par un étroit escalier et de nombreux détours dans des couloirs obscurs, Cerveau arriva dans le cabinet du juge d'instruction. Le vicomte avait eu le temps de réfléchir à l'épreuve décisive qu'il allait subir, et il se sentait parfaitement calme. Un des gendarmes frappa discrètement, ouvrit sans attendre la réponse, et lui fit signe d'entrer. Il obéit et se trouva dans une pièce carrée, tendue de papier vert, et éclairée par une fenêtre haute et large. Le jour inondait ce cabinet redoutable, et lui donnait un aspect de gaieté qui surprit beaucoup Cerveau. Derrière une table couverte de papier était assis un homme à figure grasse et calme, vêtu de noir et cravaté de blanc. Il écrivait et leva à peine les yeux. Le vicomte l'aurait pris pour le juge s'il eût aperçu à droite, au fond du cabinet et un peu dans l'ombre, un autre personnage qui se tenait debout et qui n'avait pas perdu un seul de ses mouvements. Celui-là, certainement, était le magistrat qui allait disposer de sa vie et de son honneur. Si Cerveau eût pu en douter un instant, le geste par lequel ce dernier lui indiqua la chaise placée en guise de sellette le lui aurait appris. L'autre n'était que le greffier. Le juge prit place devant son bureau et feuilleta un dossier pendant quelques minutes. Le vicomte crut remarquer qu'il l'observait à la dérobée. Un instant, leurs yeux se croisèrent comme deux épées. Cerveau le trouva plus jeune qu'il ne s'y attendait et tira bon augure de sa physionomie intelligente, de ses manières qui étaient celles d'un homme du monde. À la grande surprise du prévenu, qui se sentait de plus en plus à l'aise, L'interrogatoire commença par la constatation de son nom, de son âge et de son domicile, et continua par des questions insignifiantes sur sa situation de famille et de fortune. Cerbon y répondit avec une sincérité mêlée d'une indifférence un peu trop marquée. Il attendait une attaque directe qui ne venait pas. Et il perdit patience tout à fait quand le juge lui demanda simplement s'il lui restait quelque chose à ajouter à l'interrogatoire déjà subi chez le commissaire de police. Beaucoup de choses, dit le vicomte avec plus de vivacité qu'il ne l'aurait fallu, et j'ai hâte, monsieur, de mettre fin à un malentendu qui n'a que trop duré. Je vous écoute, dit le juge, qui avait levé la tête au mot de malentendu, et je suis tout disposé à entendre et accueillir vos explications sur le crime dont vous êtes prévenu. Il appuya sur les derniers mots et fit signe au greffier de se tenir prêt. L'intonation et le geste avertissaient clairement le vicomte de ne pas oublier sa situation difficile. Cerbon se le tint pour dit et entama d'une voix qu'il s'efforça de rendre calme, le long récit de ses faits et gestes dans cette triste affaire. Il reprit les choses à leur point de départ, en racontant l'attaque nocturne dont il avait été victime, le secours à lui apporté par un inconnu, et l'étrange restitution du lendemain. Le juge prenait des notes tout en écoutant avec une attention intelligente. Pendant cette première partie du récit, il s'abstint d'interrompre, et si ce silence avait été prémédité en vue de déconcerter le prévenu, ce but fut promptement atteint. Cerveau s'attendait à des questions, il était condamné à un monologue continu. Le bruit aigre de la plume du greffier qui courait à fond de train sur le papier accompagnait seul sa narration. Comme il arrive souvent en pareil cas, il finit par s'écouter parler lui-même, ce qui est le plus sûr moyen de perdre le fil de ses idées. Heureusement, au moment où le vicomte sentait qu'il allait s'embrouiller tout à fait, un geste du juge d'instruction l'arrêta. Il sembla au pauvre Cervon qu'il touchait terre après un long trajet à la nage. Ainsi, dit le magistrat, vous avez reçu d'un inconnu une somme de 65 000 francs. Oui, monsieur, et je viens d'avoir l'honneur de vous expliquer par suite de quelles circonstances. Et quel emploi avez-vous fait de cet argent? Mais, répondit Cervon avec quelque hésitation, l'emploi que je fais habituellement de mes revenus, et j'avoue que cet emploi n'est pas toujours très louable. Du reste, j'ai fort peu dépensé dans ces derniers temps, et une grande partie de la somme est encore chez moi. Cette allégation sera vérifiée, reprit le juge. Mais enfin, vous vous êtes servi d'une partie de cet argent, qui n'était qu'une restitution, et je crois encore que j'en avais parfaitement le droit. En êtes-vous bien sûr? Il aurait dû tout au moins vous rester des doutes et vous en avez eu probablement. Mais, monsieur, en pareil cas, ce me semble, un homme de votre monde et de votre éducation devait s'abstenir. C'était là, du reste, le moindre de vos devoirs, car vous auriez dû avertir la justice d'un silence si étrange. Mais passons, et veuillez continuer. Le vicomte se croyait armé de toutes pièces, et il sentait que la première botte de son adversaire avait touché juste. Un côté de la situation lui apparaissait maintenant sous un tout autre jour, et il commençait à se dire que sa discrétion obstinée pourrait bien tourner contre lui. Aussi, son aplomb avait-il déjà bien diminué quand vint le moment de raconter comment il avait reconnu dans le valet de chambre l'oiseau, l'auteur de l'envoi anonyme. Ce fut avec un embarras marqué qu'il aborda l'histoire de ses travestissements et de ses voyages d'observation à la suite de ce personnage énigmatique. Pendant ce long récit, le juge n'interrompit le vicomte que pour lui demander le nom et l'adresse de l'acteur chez lequel il se déguisait. En revanche, il ne cessa de prendre des notes. Cerveau éprouva un grand soulagement en arrivant à la conclusion de son équipée, c'est-à-dire à la chute ridicule qu'il avait terminée. Le magistrat reprit, sans laisser percer son impression, « L'identité du locataire de la maison de Montmartre a été constatée, et cet homme est en effet le domestique qui s'appelait ou se faisait appeler l'oiseau. « Eh bien, oh, sur ce point, vous dites la vérité. » Les mots « sur ce point » causèrent au vicomte un mouvement nerveux qui fut remarqué. « Mais si, comme vous le supposez, comme les apparences l'indiquent, ce prétendu valet de chambre n'est qu'un malfaiteur de profession, comment avez-vous pu lui rendre jadis un service ? Mais je vous ai déjà fait comprendre que je n'en savais rien. Il est au moins étrange que des relations aient jamais pu exister entre vous et un misérable de cette espèce. Je ne dois pas vous le cacher. Tant que la justice ne sera pas édifiée à cet égard, elle aura bien de la peine à admettre vos explications. Mais la justice, en s'expliquant ce fait, me rendra moi-même un signalé service. Du reste, ajouta le juge après une pause, vos dires seront vérifiés avec tout le soin et toute la promptitude que réclame la gravité de cette affaire et votre situation personnelle. Veuillez donc compléter, si vous avez à le faire, ce simple interrogatoire qui, vous devez le comprendre, ne peut être que très sommaire. Ce simple discours, si net et si naturel, fit à Cerveau l'effet d'un coup de massue. Il aurait eu 1000 choses à dire, il ne put en trouver une seule. Il était littéralement atterré. Ainsi, se disait le malheureux, la vérité n'a pu se faire jour à travers le réseau serré des faits qui m'accablent. Ainsi, la confection la plus sincère n'a pu même effleurer la conviction du juge. Il me croit coupable. Et s'il garde encore une certaine bienveillance, c'est uniquement à cause du monde auquel j'appartiens. Non seulement mon récit ne l'a pas convaincu de mon innocence, mais il m'a rendu méprisable, car j'ai l'air de dénoncer un complice. J'étais déjà odieux, mais c'est vraiment trop. Cerveau fut tiré de ses douloureuses réflexions par la voix insinuante du greffier qui l'invitait à signer son interrogatoire. Ce fut le signal d'une vive réaction. Le vicomte était né avec un sentiment très net du juste et de l'injuste. Tant qu'il n'avait eu en sa perspective que le désagrément d'une arrestation et de ses suites passagères, il s'était dit à lui-même qu'il n'avait pas le droit de se plaindre et qu'il subissait la très équitable punition de son imprudente curiosité. Il avait voulu surveiller les gens à tort et à travers, en se déguisant comme le calife de Bagdad, et cette sotte escapade l'avait mené tout droit couché en prison. C'était bien fait. Mais rester silencieux, sérieusement, sous le coup d'une accusation honteuse, recueillir pour commencer les marques de mépris d'un de ses égaux, cela excédait la mesure des torts du malheureux Cerveau, et cette conviction lui rendit l'énergie. Il se redressa, se leva de son siège, et ce fut le corps droit et le regard ferme qu'il attendit la fin de cette terrible séance. « Monsieur, dit le juge en appuyant légèrement sur le mot, comme pour indiquer son intention de traiter le vicomte avec certains égards, les nécessités d'une instruction qui peut être longue m'obligent, vous le comprendrez, à maintenir votre arrestation. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour accélérer la marche de cette triste affaire. C'est la seule faveur que je puisse vous promettre en ce moment. C'est aussi la seule que je réclame, dit Cerveau, avec un calme apparent, qui qui n'était certes plus dans son cœur. Il s'inclina devant le juge, qui répondit à son salut par une froide inclination de tête, et il sortit la tête haute. La raideur de Servon se détendit bien vite. La porte du redoutable cabinet où il venait de laisser ses dernières illusions était à peine refermée que la situation lui apparut dans toute son horreur. Le malheureux, qui tout à l'heure portait le front haut devant son juge, comme le gladiateur qui veut tomber avec grâce, se courbait maintenant sous le poids du malheur et suivait la tête basse les deux agents chargés de le guider à travers les corridors tortueux du palais. Pendant que le vicomte subissait son interrogatoire, les couloirs sombres qui servent d'antichambre à la justice s'étaient peuplés de figures bizarres. Des hommes et des femmes de toutes conditions, venus là sans doute en qualité de témoins, se tenaient assis sur des bancs, et ce ne fut pas pour le pauvre Servon une médiocre aggravation de supplice que la nécessité de subir tous ces regards curieux. Il lui sembla même reconnaître quelques personnes, entre autres la portière de la rue de la Michaudière, qu'il avait naguère renseignée sur M. Loiseau. Hâtant le pas, il s'engagea dans un passage étroit où des gens allaient et venaient. Dans un tournant obscur, le vicomte fut croisé par une sorte de clerc d'huissier orné de lunettes bleues qui portait sous le bras de volumineuses paperasses, et la place était si étroite qu'il se sentit frôlé en passant. L'homme de loi courait d'un air très pressé, et il avait déjà disparu quand Servon s'aperçut qu'on lui avait glissé quelque chose dans la main. C'était rond et dur, et le vicomte crut un instant à quelque farce de basoche. Mais l'instinct, qui vient très vite au prisonnier, l'avertit de cacher l'objet. Ce fut d'autant plus facile que les agents n'avaient absolument rien vu. Servon ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, mais il devinait un secours imprévu, et il avait hâte d'être seul pour s'en assurer. À peine réintégré dans sa cellule, il se disposait à examiner le message mystérieux, mais il pensa qu'on pouvait l'observer par quelques trous invisibles, et il usa de précautions. Il commença par se promener d'un air indifférent, puis il s'étendit sur son lit comme s'il eût voulu dormir. Dans cette position savamment combinée, il crut pouvoir, sans danger d'être vu, ramener doucement vers sa figure la main qui lui avait si à propos servi de boîte aux lettres. Il déplia doucement une boulette de papier grosse à peine comme un poids, et il eut, à 2 pouces de ses yeux, un billet dont il reconnut du premier coup l'écriture. C'était bien les mêmes caractères un peu gros et à demi renversés qui avaient tracé la lettre au billet de banque. C'était l'écriture de M. Loiseau. Le vicomte lut avidement ces 3 phrases. « Avant la fin de la semaine, vous serez libre. Ne répondez plus si on vous interroge. Détruisez ce papier. » Cet avis, par trop laconique, n'apprenait rien à Servon, si ce n'est que l'être si étrangement mêlé à sa vie lui continuait sa singulière protection. Le billet le rassura pourtant jusqu'à un certain point. Le vicomte comprenait bien qu'il n'avait pas affaire à un criminel ordinaire, car un assassin vulgaire aurait mis le temps à profit pour déguerpir sans s'amuser à jouer le rôle de la Providence. Mais comment ce protecteur invisible ferait-il éclater une innocence que la plus entière sincérité n'avait pu mettre en lumière ? C'est ce qu'il était impossible à Servon de conjecturer. Il retourna sous toutes ses faces l'incroyable aventure dans laquelle il s'égarait depuis 2 mois, et il ne fit qu'obscurcir ses idées, déjà bien embrouillées. Au milieu de tant de réflexions contradictoires, un conseil le frappa, celui de se taire. Peut-être n'avait-il déjà que trop parlé, mais il résolut qu'on ne lui arracherait plus une parole. Puis il se prit à penser que la liberté arriverait trop tard, si jamais elle venait, car son arrestation devait être déjà connue, et il fut saisi d'un violent accès de désespoir. Pour la première fois depuis qu'il était au monde, Servan se trouvait aux prises avec une de ces situations impossibles dont on a tant abusé dans les romans, et ne se sentait pour la surmonter ni la force ni la ruse. Il reconnut ce jour-là qu'il n'était pas né conspirateur. Combien de temps allait-il passer dans ce tombeau? Avant la fin de la semaine, vous serez libre. Ces mots lui revenaient sans cesse à l'esprit, et il se mit à compter les jours. On était au lundi, la prédiction ne pouvait tarder beaucoup à s'accomplir. 3 jours s'écoulèrent. Aucun bruit du dehors n'était arrivé jusqu'au prisonnier. Il n'avait écrit à personne et personne n'avait demandé à le voir. Le juge lui-même semblait l'avoir oublié, car il ne l'avait pas fait appeler pour un nouvel interrogatoire. Le jeudi soir, un gardien entra et remit au vicomte un assez gros paquet contenant du linge et des objets de toilette. C'était évidemment Charles de Pressey qui avait eu cette attention, et Servan se dit que, si son ami était instruit de sa mésaventure, son arrestation devait être en ce moment la nouvelle de tous les cercles. Le vendredi se passa sans incident. Servan devenait fou. Le samedi, à midi, rien encore. Le vicomte se dit tout à coup que ce misérable Loiseau se moquait de lui, et qu'en lui faisant tenir ce billet, il avait voulu tout simplement s'assurer de son silence pour se donner à lui-même le temps de fuir. Cela paraissait en effet probable. Alors le malheureux Servan pensa à mourir, et avec la soudaineté d'impression d'un cerveau surexcité, il se mit à combiner un suicide. Oh, il ne s'agissait que d'accrocher sa cravate au barreau de la fenêtre, de monter sur la table, de passer son cou dans un nœud coulant, et de repousser la table du pied pour se lancer dans l'éternité. Il regarda la grille d'un air désespéré, prit d'une main fiévreuse 3 mouchoirs qu'il tordit en une corde assez raide, après les avoir ajoutés les uns aux autres. Et précipitamment, comme pour une besogne hâtive, il fit un nœud coulant, attacha l'un des bouts de cette corde improvisée à l'un des barreaux de la fenêtre, et montant sur la table, se disposa à en finir.